C'est marrant, quand j'écoute de la musique, je vois les sons, comme si c'était des matières tangibles.
C'est facile de repérer un chiffre 2 au milieu d'une page avec que des 5. C'est le seul qui est rouge.
Moi, quand je touche de l'eau, ça me donne un goût salé dans la bouche. C'est pas pareil pour tout le monde.
Les atypiques du cerveau, le podcast qui en a entre les deux oreilles.
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Atypiques du cerveau. Aujourd'hui, nous allons parler de la synesthésie. Alors la synesthésie, c'est un trouble non pathologique de la perception des sensations. C'est-à-dire qu'un individu dit synesthète est capable d'associer plusieurs sens à un seul stimulus. Par exemple, associer un son à une couleur, une date à une personnalité, une couleur à des lettres, pourtant tout écrit en noir, etc., etc. Il existerait près de 150 formes différentes de synesthésie. Parlons un peu étymologie. La synesthésie, du grec syn, union, et aesthésis, sensation, c'est un phénomène qui consiste en un liage sensoriel inhabituel dans lequel certains stimuli vont évoquer automatiquement une perception additionnelle. Alors ça, c'est la façon dont l'ont théorisé Cohen, Kadosh et Hennig en 2007. C'est difficile d'en proposer une définition plus précise qui va pouvoir permettre de délimiter correctement tout ce qui est critère d'inclusion et d'exclusion, étant donné le nombre important de formes que la synesthésie peut revêtir. Ce phénomène de la synesthésie n'est pas si éloigné du fonctionnement de la majorité des personnes lorsque, par exemple, on pose la question « si on demande à associer un son aigu, on va penser plutôt à la sensation de « petit ». Et un son grave plutôt à une sensation de grand. La synesthésie concernerait entre 1 et 15% de la population. Alors oui, c'est une fourchette très large, mais c'est très complexe à estimer, parce que les synesthètes, la plupart du temps, ne peuvent pas réaliser qu'ils perçoivent les choses autrement, tout simplement parce qu'ils les ont toujours perçues de la même manière. Ça peut être par exemple voir une couleur quand on va lire une lettre qui est pourtant imprimée en noir, avoir un goût lorsqu'on lit un mot, ou encore voir des formes lorsqu'on goûte quelque chose. Les premiers cas documentés remontent au début des années 1800. C'est important de distinguer d'emblée la synesthésie de ce qu'on va appeler des associations temporaires. Tout ça peut paraître un peu farfelu, un peu abstrait, mais la synesthésie n'est pas une illusion, c'est bien une expérience réelle. Le synesthète ou la synesthète voit quelque chose ou sans quelque chose en plus. Un exemple connu, utilisé par Palmieri et Hall en 2002, explique que si on montre une rangée de chiffres 2, tous écrits en noir, à l'exception d'un 2 écrit en rouge, forcément on va le repérer très rapidement. Mais si vous ne voyez qu'une rangée de chiffres 5, dans laquelle est noté un chiffre 2, et que tous ces chiffres sont en noir, vous risquez d'avoir des difficultés à repérer rapidement le chiffre 2. Quelqu'un qui est synesthète et pour qui le 2 est d'une couleur différente à celle des 5, en tout cas d'une façon virtuelle car l'œil d'un synesthète perçoit exactement la même chose, mais quelque chose se passe lors du traitement des signaux perceptifs à l'intérieur du cerveau. Et donc ce synesthète va voir la couleur différente et va évidemment, beaucoup plus rapidement que n'importe qui d'autre, trouver ce chiffre. Cet impressionnant mais mystérieux phénomène a attiré l'attention de la communauté scientifique dès le 19e siècle. Certains synesthètes perçoivent des couleurs pour certains goûts alimentaires, comme l'ont théorisé Ward and Sinner en 2003. D'autres vont sentir des goûts lorsqu'ils entendent des sons ou des intervalles musicaux, tels que ça a été théorisé par Bailey, Elslen et Lianke en 2005. D'autres encore, par exemple, entendent des sons lorsqu'ils sentent une odeur. En raison notamment de leur forte prévalence au sein de la population, certaines formes de synesthésie ont été plus étudiées que d'autres dans la littérature scientifique. On parle principalement de la synesthésie dite graphème couleur, qui concerne à peu près 64% de la population synesthésique. Également de l'audition colorée, qui elle concerne environ 15%, et des séquences spatialisées, qui concernent environ 10 à 15% des synesthètes. Il faut noter que tous ces pourcentages, encore une fois, ne sont qu'une estimation, étant donné que le mode de recrutement de la plupart des études, y compris une des plus connues qui est celle de Day, consiste en des témoignages spontanés qui vont dépendre de la définition implicite des synesthésies utilisées par les personnes qui les expérimentent. Si on prend par exemple le cas des synesthètes qui perçoivent des lettres ou des chiffres en couleur, La lettre A peut évoquer la couleur rouge pour un synesthète, mais la couleur bleue pour un autre. Donc c'est très hétérogène, non seulement dans les différentes formes que peut prendre la synesthésie, mais également dans sa réalité subjective, ce qui rend son étude parfois complexe, mais tellement passionnante. Le type de synesthésie le plus répandu consiste en une association intramodale, la synesthésie dite graphème couleur, et elle concernerait environ au total 1% de la population. Encore une fois, les estimations sont très larges parce qu'elles varient entre un individu sur 23 et un individu sur 25 000. La plupart ignorant leur capacité synesthésique du fait que ce phénomène n'a pas de retentissement pathologique. Mais alors quel rapport avec les atypiques du cerveau ? Eh bien tout simplement, des études lient notamment la prévalence de la synesthésie avec entre autres l'autisme. Alors cette constatation pourrait surprendre, hein, puisqu'a priori, synesthésie et autisme ne semblent pas partager quoi que ce soit au niveau symptomatique. Cependant, au niveau du cerveau, la synesthésie va impliquer des connexions neuronales atypiques entre des régions cérébrales qui ne sont d'ordinaire que modérément interconnectées. C'est la raison pour laquelle une sensation perçue par un canal sensitif active automatiquement une perception dans un autre canal. On considère que l'autisme partage cette caractéristique. Le cerveau des autistes présente des connexions surnuméraires qui entraînent une interconnectivité forte, qui réduit malheureusement l'efficacité et la précision des signaux transmis. Chez les adultes avec autisme, la prévalence de la synesthésie est estimée à près du triple. Une équipe de l'université de Cambridge révèle un résultat surprenant concernant les rapports qu'entretiennent l'autisme et la synesthésie. Selon leurs travaux, si environ 7,2% de la population présente les signes d'une synesthésie forte, cette proportion atteint 18,9% dans la population des autistes. Les chercheurs expliquent leurs résultats par l'excès de connexion neuronale entre certaines zones du cerveau. Alors oui, ces résultats doivent encore être confirmés par de plus larges études, en particulier en utilisant l'imagerie cérébrale. Ça apporte néanmoins un éclairage intéressant, potentiellement, sur ce risque de trouble de la perception sensorielle chez les personnes avec un TSA. Plusieurs études complémentaires ont été faites depuis et une nouvelle étude suggère qu'une hyperconnexion entre neurones expliquerait la synesthésie. Alors ça, c'est la conclusion d'une étude qui a été publiée en 2013 dans la revue online Peer-Reviewed Molecular Autism, qui est dédiée aux recherches sur ce trouble du développement. À noter qu'au-delà des personnes avec autisme, on voit une prévalence plus importante de la synesthésie chez les hauts potentiels intellectuels, chez les TDAH ou chez les 10. Tous nos atypiques sont donc concernés. Un autre scientifique se démarque de toutes ces suggestions, Jean-Michel Huppé, et pense quant à lui que la synesthésie aurait quelque chose à voir avec les vestiges de l'imaginaire enfantin. Selon lui, lors de l'apprentissage de la lecture, les enfants associeraient des lettres et des couleurs pour faciliter la tâche. Dans ce processus, des neurones dédiés à acquérir une expertise visuelle seraient mobilisés. Et donc, pour les synesthètes, des neurones dédiés à la perception des couleurs pourraient avoir été utilisés pour en apprendre la lecture. Au final, les couleurs synesthésiques pourraient être des réminiscences de la fonction antérieure des neurones. Peu partagent cet avis. Quoi qu'il en soit, les différences peuvent fasciner ou inquiéter. Et l'histoire des synesthésies est instructive à cet égard. À la fin du 19e, les synesthètes sont soit les voyants du mouvement romantique, capables de percevoir des correspondances secrètes au-delà des apparences, et à l'époque, tout artiste se doit d'être synesthète. Soit à l'inverse, on les voit comme portant les signes de la dégénérescence de la race, revenus à un stade inférieur d'indifférenciation des sens, et donc on prétend alors que les synesthètes sont plus fréquents chez les enfants, les femmes et les sauvages. Je vous laisse méditer. Quoi qu'il en soit, la synesthésie pose de nombreuses questions. Elle constitue une voie pour mieux comprendre le fonctionnement du cerveau et ses interactions avec l'ensemble du corps. Mais elle invite aussi à des explorations dans d'autres domaines. Épistémologie, philosophie, sciences de l'évolution. L'objet synesthésique, c'est-à-dire la combinaison de modalités de traitement et d'intégration du réel, ainsi que l'espace dans lequel il se déploie, semble avoir des propriétés assez singulières. C'est assez signifiant de se rendre compte que de nombreux synesthètes expriment que cette synesthésie ne semble pas provenir de leur propre espace mental, en tout cas qu'ils n'ont pas choisi, ils n'ont pas décidé de la manifestation de cette représentation. Et d'ailleurs, les synesthésies sont toujours décrites de façon assez laborieuse. Elles sont difficilement accessibles au langage, elles sont difficilement saisissables, alors qu'elles sont toujours parfaitement sensées. Comme le dit Daniel Lamé, les objets synesthésiques semblent reliés les uns aux autres, constituant un tissage unique, au cœur d'un espace sans bord, sans horizon, sans limite, plus vaste que l'esprit lui-même. Les recherches tendent à montrer que les synesthésies peuvent advenir chez tout un chacun dans des moments particuliers de la vie, tels que les phases d'endormissement, par exemple, ou l'état de transe hypnotique, sans parler de la consommation de certains psychotropes ou autres. Et cette synesthésie témoignerait d'une autre façon d'être liée au monde, le plus souvent invisible, et invite à réfléchir à d'autres dimensions. Par exemple, Kandinsky, qui était lui-même synesthète, disait qu'il peignait des musiques. De quoi faire réfléchir sur nos cerveaux atypiques. Je ne sais pas si en écoutant ma voix, vous aurez eu un goût bizarre dans la bouche ou vu des couleurs. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, j'espère que vous aurez appris des choses. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des atypiques du cerveau.